quartier
de vie.
Une émission proposée par Résonance Sonore.
Chez soi, c'est le respect de l'intimité, mais ça peut être n'importe où. C'est le lieu où je suis, dans la mesure où je m'y sens bien, et dans la mesure où je sens que je suis respecté, que j'ai la possibilité de respecter les autres, qu'il y a une relation à la fois de convivialité et d'empathie. C'est pas l'enfermement, le chez-soi. C'est une ouverture au monde, donc aux personnes essentiellement.
Le chez-soi, c'est un endroit où on se sent bien, déjà, et qu'on peut accueillir les personnes qu'on aime. Des amis, pouvoir les accueillir.
Franchement, le chez-soi, c'est le retour aux sources. C'est la source, le chez-soi. C'est rien d'autre que ça. Donc pour moi, mon chez-soi, c'est un peu partout. Mon chez-soi, c'est la famille. Et là, je suis de retour en Europe. Est-ce que c'est chez moi ici? Franchement, je me sens pas trop chez moi, à vrai dire. Ouais. Pourquoi? Parce que, déjà, c'est cher. C'est cher et je me sens pas à l'aise. Je me sens pas à l'aise. On va parler de la France, je me sens pas à l'aise en France. Je me sens pas à l'aise du tout. J'ai envie de dégager d'ici rapidos.
Et un chez nous?
Un chez nous, ça serait plutôt un couple qui dirait venez chez nous, vous serez la bienvenue. Voilà. On boira un verre, on mangera, je sais pas.
Du chez-soi au chez-nous, l'art à la rencontre des habitants. En traversant le quartier des Arènes à la sortie du métro ou place Émile Malle, peut-être avez-vous croisé les artistes de la compagnie Spoutnik. Comédiens, danseuses, plasticiennes, techniciens, preneureuses de son, plongées dans une conversation avec les habitantes et habitants du quartier, questionnant le chez-soi, le chez-nous et les liens du chez-soi au chez-nous dans un décor atypique. Un appartement éphémère à ciel ouvert. Bienvenue au cœur de ce projet artistique, anthropologique et assurément poétique.
Tu veux que je prenne le truc noir?
Je le remettrai dessus.
On l'installe le matin vers 9h, ça nous prend une petite heure. Et le soir, on démonte vers 19h30.
Chariot, on a un gros diable sur lequel on sangle les choses qui sont plutôt plates. Et puis on a un petit chariot de camping qui se plie et qui se déplie. Et donc on fait des allers-retours avec ça. La porte. On l'a mis droite.
Alors, je m'appelle Marion Raevski, je suis directrice artistique de la compagnie Spoutnik. C'est une compagnie où on fait du théâtre anthropologique. On a choisi cette thématique du chez-soi au chez-nous, parce que je pense que c'est un sujet en fait, qui nous permet de parler de la société, de l'intime. Et en même temps, quand on le transpose à l'espace public, il y a un côté politique. En fait, du chez-soi ou chez nous, c'est vraiment aussi de se dire est-ce que l'espace public, c'est un chez-nous? Est-ce que le commun, il existe encore? Et aussi parce que c'est des termes qui peuvent être réutilisés par des partis politiques d'extrême droite, par exemple, qui vont s'approprier en fait ces termes-là, de chez-nous, chez-soi et tout ça. Et je pense que c'est important que par l'artistique, en fait, on montre aux gens que non, en fait, ce n'est pas que ça, en fait. Le chez-soi, c'est pas forcément un renfermement, ça peut être aussi un partage et un espace d'ouverture, en tout cas, et de rencontre.
Et pourquoi convier différents artistes et différents médiums? C'est parce que, déjà, on a toujours mêlé art et science, parce que je pense que les scientifiques ont besoin des artistes pour traduire les sciences, et je pense que les artistes ont besoin des sciences humaines pour aller vers les autres. On essaye d'être au plus proche des gens et je pense qu'il faut... On ne peut pas tout traduire avec une seule discipline et que peut-être qu'en ayant plusieurs disciplines, on arrive à être au plus près de ce que nous racontent les gens. Michael Théodore. Je travaille pour la compagnie Spoutnik et une formation d'anthropologue, entre autres.
Quel a été votre rôle là sur le projet, ici, sur cette résidence de territoire?
Ça a été de penser et de réfléchir aux moyens d'accueillir des gens pour récolter c'est quoi chez soi pour eux. Et de là est venu le fait de créer un appartement dans l'espace public et après d'être là pour les accueillir et discuter avec eux autour de cette notion du chez soi ou chez nous.
Concrètement, vous avez quoi à peu près comme dispositif? Vous les conviez dans quelle partie de l'appart? Comment vous faites?
Moi, je me suis spécialisé dans le canapé. Parce que je trouve que le salon est le lieu où, où les langues se délient et où on peut être à son aise et où, où il appartient à tout le monde. Si je prenais une maison, je pense que la cuisine est un peu un lieu intime où chacun fait à manger et le salon est plus l'endroit où on accueille tout le monde, même les inconnus.
La porte est mise.
Allez, alors, c'est le début. Pour l'instant, on triche un peu, on a fait tomber les murs là. Mais au bout d'un moment, les murs vont réapparaître. Donc,
et ça voilà. Change quoi?
Mais ça change qu'il faut absolument, pour aller dans l'appartement, rentrer par la porte. Et d'ailleurs, les gens rentrent par la porte.
Qu'est-ce qui symbolise les murs et qu'est-ce qui délimite l'appartement?
Des phrases. Des phrases, en fait, qui sont des témoignages de gens, des questions qu'on leur pose ou des réponses qu'ils nous ont données par rapport au chez-soi ou chez nous, par rapport à l'espace public, par rapport à... Comment rencontrer des gens dans cet espace public? Est-ce qu'il fait partie du chez-soi, du chez-nous?
Et comment vous les avez inscrites, ces phrases? Vous pouvez nous expliquer?
Alors, on a travaillé avec une architecte qui nous a aidé à délimiter un véritable appartement de 70 mètres carrés. Et on avait envie, pour symboliser justement cet appartement qui favorise la rencontre, de mettre des témoignages. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des murs ouverts et qui n'enferment pas, justement. Donc là, on est en train d'installer la cuisine. Et au fur et à mesure, voilà, l'appartement va commencer à naître. Et puis les gens vont pouvoir aller se poser dans les chambres. Il y a pas mal d'enfants, parce qu'il y a une suite parentale et il y a une chambre pour les enfants. Donc ils peuvent aller jouer. Voilà, on a fait couler des cafés, des thés et autres... Et votre petite gâterie pour pouvoir accueillir comme il se doit les gens.
Venez boire un café. Passez par là.
Je suis à la retraite maintenant. J'habite là, à côté.
Où ça?
Aux Arènes. Et puis ça, la résidence, là. Bon, ça fait depuis 62 que je suis là. Alors bon, je commence à connaître le quartier un peu. Mais bon, c'est dommage, tous les commerces s'en vont. On avait deux banques, on n'en a plus. On avait deux bars, on n'en a plus de bars. À fur et à mesure, ils démolissent, ils font des immeubles. Là, on avait une belle boulangerie qui faisait des bons gâteaux. Ils l'ont démoli, et voilà, l'immeuble maintenant. Il nous reste un petit supermarché, là, qui vient de s'installer, et une presse. Voilà, c'est tout.
Il y a une boulangerie juste derrière, quand même.
Voilà, il y a une boulangerie. Non, mais on est bien distribué, quand même. On a les cliniques, on a les pharmacies, pas trop loin. Avenue de Grande-Bretagne, Patois, il y en a partout. On est bien.
Et pourquoi vous êtes habillé en bleu?
C'est toujours dans l'idée de quand on récolte, de mettre en scène cette récolte-là. Il fallait qu'on soit tous avec les mêmes tenues. Et surtout, la compagnie essaye d'être dans une démarche de production écologique. Et du coup, tout ce qui est les meubles, mais aussi les vêtements, viennent d'Emmaüs, en fait, pour éviter d'avoir à acheter et de surconsommer. Et il se trouve qu'Emmaüs avait tout un chargement de vêtements bleus qu'on a découvert là-bas. Et puis surtout, il y avait aussi cette idée du bleu de travail, où on est là en train de travailler et... Et voilà, c'est surtout pour ça.
C'est un partenariat avec Emmaüs Villefranche-la-Brigeois. Et donc voilà, c'est tous des objets qui ont déjà eu une vie dans des chez-soi. Et je trouvais ça important qu'ils aient déjà vécu des histoires et qu'ils soient chargés de ça. Parce qu'en fait, les gens, quand ils viennent, en fait, ils disent « Ah, mais on a vraiment l'impression que vous habitez là ». Et je pense que les objets, ils jouent là-dessus, parce qu'ils sont un peu usés, parce qu'on sent qu'ils ont été utilisés, en tout cas. Donc voilà, il y a une raison écologique et il y a une raison aussi par rapport à l'âme un peu du projet. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais j'ai le même canapé, ce tapis-là, ça me rappelle chez ma grand-mère. » J'ai travaillé vraiment sur le sol aussi de l'appartement. Donc, chaque pièce a son tapis qui est pensé par rapport à l'utilisation de la pièce.
À l'origine, le quartier était une zone maraîchère. Il y avait un canal qui passait là d'ailleurs, qu'on appelait le canalette, qui venait de Saint-Martory.
Ils l'ont bouché pour faire la rue Saint-Simon.
Et il n'est pas bouché, hein. Ils l'ont dévié. Mais le canal lui-même, il existe encore en sous-sol. Au bout de chaque rue, là, il y avait un petit ponceau pour passer ce qu'on appelait le canalette. Et le soir, on fermait le ponceau pour que les voitures ne passent pas et les gens discutaient dans la rue. Les femmes sortaient les chaises et les gens occupaient la rue. Le quartier du Pêche est resté, le Pêche c'est là, hein, est resté une commune autonome dans Toulouse jusqu'en 1956. Ça a été rattaché à la commune de Toulouse en 1956 seulement. Il y avait une commune autonome ici. Alors, il y a eu une vraie histoire. Pardon.
Les arènes en faisaient partie.
Et les arènes en faisaient partie.
C'était pas Toulouse.
Alors c'était dans Toulouse, si vous voulez, il y avait trois communes. Il y avait la Colombette, il y avait le Pêche, il y en avait une autre dans le quartier de la Roseraie. Lorsque la commune a été créée, certains quartiers ont voulu garder leur autonomie, leur indépendance. Et ça s'est terminé juste dans les années 70, il n'y avait pas encore le tout à l'égout ici.
Vous voulez vous mettre dans le canapé ou dans un fauteuil comme ça? Un fauteuil?
C'est un projet qui se fait dans le cadre de Toulouse Expérimentation, qui est porté par la ville de Toulouse. Et après, il y a des cofinancements où, depuis très longtemps, il y a la CAF, qui soutient les actions et projets de la compagnie. Il y a aussi Politique de la Ville, si je ne me trompe pas. Il y a aussi la région, qui est partenaire du projet. Et je crois que... Je vais sûrement en oublier, mais je crois qu'on a trouvé ça.
Et c'est grâce à l'Allée, puisque l'Allée, en fait, c'est l'association Allée qui est notre partenaire du territoire. Ils ont plusieurs lieux sur Toulouse, enfin plutôt dans le sud de Toulouse. Et ils mélangent culture et lien social. Et ils ont aussi deux espaces de vie sociale. Et là, en fait, il y avait une association qui s'appelait LASCOT. Là, on voit la petite pancarte qui avait les locaux, là où on fait les loges, où il y a les affiches. Et en fait, LASCOT, ça devait être notre partenaire. Et quand on a commencé à faire la préparation du projet, on a fait deux réunions avec eux et après, ils sont partis. Et en fait, ils se sont recentrés sur les deux autres antennes qu'ils ont. Et donc l'Allée, eux qui sont avec la ludothèque ici, en fait, on leur a demandé de reprendre un peu le côté social. Parce qu'en fait, on est dans un quartier prioritaire ici. Et voilà, ils font un super travail, l'Allée, parce qu'ils essayent aussi de faire du lien entre les associations qui existent déjà.
Bonjour, allez, c'est bon. Je suis Alban. Le responsable de la ludothèque. Alors, juste ici, on se déchausse. Je ne sais pas si on vous a prévenu.
Alors, je me présente. Donc, je m'appelle Aurélia Domenech et je dirige une association qui s'appelle Allée, qui signifie, c'est un acronyme qui signifie Agissons laïcité pour des loisirs ludiques et éducatifs ensemble. C'est une association qui existe depuis 1993 et qui aujourd'hui interagit sur l'ensemble du territoire toulousain du 31-300. Notre lien avec la compagnie Spoutnik, donc, il s'est fait un peu par hasard sur le quartier des Arènes. Donc, cette association Allée, elle gère une ludothèque qui est implantée sur le quartier des Arènes. Et il y avait un projet déjà démarré avec Spoutnik autour de l'occupation du coup de l'espace public. Donc on a pris ce projet en cours qui était déjà démarré et il s'est avéré qu'on les a du coup accompagnés sur le territoire, sur la lecture que nous on en avait de ce quartier, la rencontre avec les habitants, et on a surtout ouvert les portes des lieux qu'on avait et puis partagé du matériel, des échanges. Voilà, leur travail résonne assez avec finalement Projet Notre Association, donc c'était pas trop difficile d'œuvrer dans un même sens. Et en plus, c'est intéressant pour nous parce que ça amène toujours d'autres réflexions, de rencontrer d'autres types de professionnels que ceux qu'on a l'habitude, nous, de côtoyer. Donc là, des comédiens, des sociologues, voilà, et puis d'échanger sur nos publics. Eux ont aussi amené avec leur travail sur le territoire des Arènes, du coup, une accroche avec des publics qu'on n'arrivait pas forcément nous à toucher, d'un public adulte seul. Voilà, nous on peut toucher beaucoup des familles, des adultes en bande, quelquefois des couples, des seniors quatrième âge, comme on dit aujourd'hui, qui sont à la recherche de lieux de rencontre, mais des gens adultes. Seuls, on les touche pas forcément, ils ont encore du mal à pousser la porte des lieux collectifs. Voilà. Donc nous, occuper l'espace public, on peut le faire, mais ces gens-là s'identifient pas forcément dans nos espaces parce qu'on a encore des familles avec des enfants et donc ils se disent, tiens, c'est pour les enfants, quoi. C'est pas pour nous. Voilà. Donc c'est vrai que dans ce qu'on propose Spoutnik, quand on les croise sur la journée, on se rend compte qu'ils ont aussi un public comme ça. Donc c'est aussi une opportunité pour nous pour pouvoir se faire identifier, rencontrer. C'est la sonnerie.
Ça fait du bien le café, hein ?
Ouais, ça s'appelle bien.
T'habites par ici, Ousmane ?
Mais avant, je faisais la manche ici. À Carrefour, y a une dame qui est venue, qui m'a vu, et m'a dit, parce que ça fait 12 ans que je suis en France. Et depuis 2013, je suis là, j'ai essayé de faire me régulariser, mais ça n'a pas marché. À chaque demande, j'ai fait une première demande d'asile qui a été déboutée. J'ai fait un recours qui a été débouté aussi. J'ai fait une autre réouverture des dossiers qui a été déboutée. Et du coup, le temps que j'étais débouté, je n'avais rien à faire. J'ai fait 2 ans de bénévolat dans une épicerie sociale qui s'appelle Escale de Saint-Geneviève-des-Bois. Depuis que je suis à Toulouse, je suis venu pour essayer de faire mes 10 ans d'existence sur le sol français, pour essayer de m'insérer encore, me régulariser. J'ai eu un petit boulot au Mondial Relais au Black, par le canal de quelqu'un qui m'a prêté ses papiers. Et un jour, j'étais dans un squat, comme je n'avais pas d'hébergement, je dormais dans un squat à Blagnac. Et du coup, quand ils sont venus déguerpiller le squat, je suis parti faire 2 mois de rétention. J'ai fait 2 mois de rétention à Cornobarie et ils m'ont libéré, du coup, avec un quitter. Et là, je suis en train de chercher encore à me régulariser. Je fais mes démarches. Je suis suivi par l'association Solidarité Migrants.
Donc, et là, tu loges où alors ?
Là, en ce moment, je dors. Deux fois, c'est des amis. Et c'est un ami qui m'avait amené faire ces courses-là. Deux fois, et vu que j'ai rien, donc je viens, je le fais ses ménages, je fais ses trucs, et je reste là-bas au chaud. Quand il se sent bien, je dors. Et quand il veut son intimité, je me démerde. Et deux fois, la dame aussi qui est venue, qui m'a trouvé en train de faire la manche ici, deux fois, je peux passer chez elle, mais elle est là, son fils, elle a un grand garçon de 22 ans, donc deux fois, il aimerait bien être seul avec son fils, donc je ne peux pas lui priver sa vie aussi. Et du coup, je vis comme ça du jour au jour. Et là, je suis en train de faire un traitement de l'hépatite B à l'hôpital de la Grave. Et le 10, j'ai rendez-vous avec un médecin spécialiste de l'hépatite à Rangueil. sinon c'est ça mon parcours. Et quand j'ai vu et tu te sens bien, bah, en France, je ne peux pas dire que ce n'est pas chez moi. Ben, vu que je parle la langue, j'essaye de m'insérer, de m'intégrer. Et du coup, moi, j'ai reçu des trucs de racisme, des trucs, mais pas trop. Je peux dire que la France est vraiment une terre d'asile, de comment on appelle, d'accueil. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, je flatte pas. Je ne suis pas là pour essayer de juste parler parce que je ne suis pas en règle. Mais franchement, ce que j'ai vu depuis que je suis là, je ne suis pas agressé, je me sens en sécurité, pas comme là où j'étais. Et du coup, vu que la dame m'a aidé, elle m'aide en ce moment un peu financièrement, j'avais la peine pour moi de faire la manche et du coup j'ai arrêté et je me démerde avec mes amis, avec la dame. Et c'est ça mon histoire en France.
Et tu es parti tout seul de ton pays ?
Oui, je suis parti tout seul parce que je me suis retrouvé un peu... Je voulais vraiment me séquestrer à cause du parti parce que moi, là-bas, j'étais photographe caméraman. Donc, je faisais photo caméra et du coup, je me suis un peu lancé dedans. J'ai pu avoir un entourage qui comptait sur moi pour les couvrir leurs cérémonies, mariage, baptême, anniversaire. Du coup, je gagnais bien ma vie dans ça et du coup, le parti politique qui était au pouvoir a voulu vraiment me prendre pour un appât pour que je puisse... Moi, j'étais apolitique parce que mon père a été secrétaire général. J'ai vu qu'est-ce que la politique a déchiré ma famille avec mon entourage, nos communes. Donc du coup, je me suis devenu apolitique à vie. Je ne suis plus dans la politique, je vais être un militant qui n'a rien, qui n'a pas de repère. Qu'est ma liberté. Et du coup, c'est comme ça s'est passé chez moi et je me suis retrouvé en prison et j'ai eu des dents cassées par des coups de crosse. Je suis en train de faire des traitements en ce moment ici. Donc j'ai eu beaucoup de souffrances dans ma vie, mais je suis venu par avion quand même. En 2013, et comme j'avais un peu une initiative, je me démerdais. Donc je faisais des économies et puis avec mes relations, j'ai pu compléter jusqu'à trouver de l'argent, à payer un démarcheur qui m'a fait un visa, qui m'a fait venir ici. Depuis le jour que je suis descendu avec lui à Orly, c'est barré avec mon passeport, avec 1 500 € de mon argent de poste. Et c'est là où la galère a commencé pour moi. Parce que moi, je ne m'attendais pas à tout ça.
Ce qu'il y a de bien d'être plusieurs à pouvoir accueillir les gens, c'est que... Il y a plusieurs pôles dans cet appartement. On peut y avoir le salon où là par exemple Mickaël et Marion sont en train de discuter depuis longtemps avec quelqu'un. Et moi je peux accueillir les gens dans la cuisine juste pour qu'ils prennent le temps de manger un peu. Et même si c'est un petit peu plus rapide, au moins qu'ils aient un endroit pour se sentir chez eux, chez soi. Quoi. Moi je suis Ricos et en fait moi à la base je suis comédien et metteur en scène. Et ça fait longtemps que je travaille aussi sur des projets de territoire avec la compagnie Spoutnik, avec d'autres personnes. Moi, j'aime jouer des spectacles qui sont de théâtre ou les mettre en scène. Mais ce qui vraiment me comble le plus dans mon métier d'acteur, c'est d'être proche des gens, de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir discuter avec eux, développer un côté intime avec eux. Ça m'intéresse. Et donc, avec la compagnie Spoutnik, c'est quelque chose qui me régale parce que justement, il y a ce côté-là très, très vivant.
Vous changez d'avis après des discussions avec des personnes, parfois ?
Moi, j'ai pas trop d'avis arrêtés. Donc, en fait, mes avis peuvent évoluer, mais... Je ne sais pas s'ils changent, mais en tout cas, ils évoluent. Ils évoluent. J'ai pas vraiment d'idée arrêtée sur rien. J'aime bien me laisser surprendre et c'est pour ça que j'aime bien rencontrer les gens.
On est chez nous.
Mais chez lui, c'est pas chez nous.
Voilà.
Ah, pourquoi ?
Eh bien, parce que c'est chez lui.
Est-ce qu'un chez lui, ça peut devenir un chez nous ? Ou jamais ?
À part si je me marie, je me fracse avec lui, ça va devenir...
Mais chez lui, on peut se sentir comme chez moi.
Oui, voilà.
Si c'est vraiment un ami, c'est... Voilà, je vais chez lui comme si c'était chez moi.
Ah oui, voilà,
je me sens bien, voilà. Je me sens bien chez lui. Chez moi, t'es chez toi.
Il y a un meuble dans la cuisine, là, avec des bocaux, avec des prénoms écrits dedans. Et il a... enfin, c'est quoi l'histoire de ces bocaux, là?
Alors ça, c'est la spécialité de Marion. Elle fait des confitures de chez soi, où elle demande aux gens de faire des bocaux avec un, on va dire, un mini chez soi, où chacun peut mettre ce qu'il a envie dedans pour construire son chez-soi et qu'on puisse le mettre en exposition. Donc il y a de tout, il y a des mots, il y a des objets, il y a des pensées.
Est-ce qu'on peut aller dans la cuisine?
C'est l'endroit le plus convivial d'une maison, pour moi.
Donc il va y avoir une expo itinérante, vous pouvez nous en dire quelques mots, comment ça va vous rencontrer, comment vous allez vous en saisir.
Michael nous a expliqué qu'on gardait la main sur les pièces qui étaient accessibles, qu'on gardait la main sur les créneaux, on ne nous imposerait rien, voilà, que tout ça se ferait en concertation. Voilà.
Vous allez faire un vernissage, par exemple?
Oui. On va inviter des gens, on va proposer aux gens du quartier de venir. Il y aura des œuvres qui seront dans notre chez nous, sans forcément qu'elles soient identifiées comme des œuvres. Du coup, on ne fera pas forcément la différence avec ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Et en plus, ça, c'est un petit peu garni chez nous. Voilà, si j'ai bien compris, c'était ça.
Alors aujourd'hui, vous avez eu beaucoup de monde?
Beaucoup, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que tous les gens qui viennent ont beaucoup de sincérité et de qualité de récit, de questionnement par rapport à cette thématique. Et je crois qu'ils repartent heureux de cette discussion. Parce que c'est une vraie discussion, donc on donne aussi notre point de vue et ce qu'on a entendu. Et donc chacun repart avec beaucoup de questionnements, peut-être pas beaucoup de réponses, mais en tout cas ça suscite le débat. Quelque chose qui, je pense, manque à l'heure actuelle, où on n'a plus de débat. Notamment quand on est dans l'espace public, et je trouve ça très dommage.
Vous venez d'écouter « Du chez-soi au chez-nous », l'art à la rencontre des habitants. Réalisé par Claire Cache-Couche-Soucy. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner, et en particulier à Rikos, Marion Rajewski, Michael Théodore de la compagnie Spoutnik, ainsi qu'à Aurélia, Marion et Alban de l'association Allez.
Quartier
de vie.
Retrouvez son podcast sur
www.resonance-sonore.fr.